Il a vécu seul comme un bourreau. Raphaël.
Ans d'histoire. À aucun moment de l'histoire, on a vu dans un même pays autant d'artistes de premier ordre. Jamais non plus les peintres, les architectes, les écrivains ou les sculpteurs n'ont été à ce point aidés par des princes pour lesquels ils ont créé, en Italie, quelques-unes des plus grandes œuvres de l'histoire de l'art. Ils avaient à peu près le même âge, ils vivaient à Rome, à Venise, à Florence, à Bologne ou à Milan. Ils s'appelaient Léonard de Vinci, Titien, Raphaël, Bramante, Bellini, Carpaccio ou encore Michel-Ange Buonarroti, un sculpteur florentin auquel, en 1508, le pape Jules II eut l'idée géniale de commander pour une chapelle ce qui allait devenir la fresque la plus célèbre du monde.
Cette chapelle est très chère à mon cœur. Comme vous le savez, elle a été bâtie par mon oncle, le pape Sixte. D'où son nom de chapelle Sixtine.
Que pensez-vous de son architecture?
Je veux la vérité, Buonarroti.
Son architecture, elle est aussi dépourvue d'architecture qu'une étable à vache.
Nous convenons donc qu'il faut faire quelque chose. Mon fils, j'ai décidé de vous distinguer d'entre tous les maîtres peintres d'Italie.
Les maîtres peintres?
C'est vous qui corrigerez les maladresses qu'ont fait les architectes de mon oncle. Votre mission consistera à décorer le plafond.
Mais très saint père, je suis un sculpteur et non un peintre.
Pierre Rosenberg, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez dirigé, on le sait, le Louvre pendant plusieurs années. Et puis alors vous avez préfacé aussi deux livres magnifiques sur la peinture italienne qui viennent d'être publiés chez Mingès. Il y est question, entre autres, du célèbre plafond de la chapelle Sixtine que Jules II avait commandé à Buonarroti, dit Michel-Ange. Michel-Ange qui avait failli refuser parce que, on vient de l'entendre, il s'estimait d'abord sculpteur et pas peintre.
C'est exact, c'est exact. En fait, il n'avait, pour ainsi dire, peint qu'un seul tableau avant cette date, le fameux Tondo Tondi de Florence, qui est un chef-d'œuvre évidemment, et qui avait déjà prouvé qu'il était capable de peindre. Et en fait, Jules II savait ce qu'il faisait en approchant Michel-Ange et en lui demandant cette tâche. La voûte elle-même n'avait pas été peinte. Quand Sixte IV construire la chapelle qui porte son nom, les murs sont peints par des artistes florentins. C'est assez important parce qu'en fait, quand il fait appel à Michel-Ange, il fait aussi appel à un florentin.
Alors on y reviendra sur cette Sixtine, mais il semblait attacher même plus d'importance à la sculpture qu'à la peinture. Il disait, c'est la sculpture qui doit être le flambeau de la peinture, et entre l'une et l'autre, il y a la même différence qu'entre la lune et le soleil étant la sculpture à ses yeux.
Oui, c'est incontestablement un homme qui préférait sculpter à peindre, mais il a voulu relever le défi incontestablement, comme il le voudra relever plus tard quand il s'affirmera comme un très très grand architecte. C'est un génie universel, évidemment, quelqu'un qui relève le défi, comme on dit, qui n'a pas peur de prouver son génie dans toutes sortes de disciplines, avec un courage.
Et polyvalent. Et d'ailleurs, il a ce point commun avec Léonard de Vinci, dont il était le contemporain, de même qu'il était le contemporain, je l'ai dit, d'une quantité de peintres extraordinaires, immenses, hein, Raphaël, Titien. Comment expliquer qu'à la même époque, justement, on ait vu apparaître dans un seul pays, même si ce pays est divisé en plusieurs États, mais dans un seul pays, autant de génie.
C'est inexplicable, bien entendu. La comparaison avec Léonard, quand même, Léonard est plus intéressé par les sciences. Tous les deux se passionnent pour l'homme, qu'il considère comme évidemment la grande création de Dieu, et comme ce qu'il y a de plus extraordinaire. Et ils se passionnent pour l'homme. Ce sera au fond le sujet de leurs œuvres, à tous les deux. Mais c'est cette accumulation de génie à la même date, ça fait partie des miracles. Ça n'est pas le seul moment de l'histoire où ça s'est produit. Moi, je reste toujours stupéfait de voir naître à peu près dans les mêmes années Manet, Monet, Toulouse-Lautrec, Degas, Vincent Van Gogh, j'en ai oublié beaucoup, et des plus grands. Donc, vous voyez, ce phénomène se produit parfois. pourquoi en France, à une certaine date, dans une certaine classe de la société, en France ou en Hollande d'ailleurs, naissent des artistes de génie. C'est inexplicable. Bien sûr, on a essayé de l'expliquer, il y a l'explication marxiste, etc. Mais en fait, je crois qu'elle ne répond pas à cette interrogation. La grande différence entre l'histoire de l'art et l'histoire, c'est que l'histoire, elle peut s'expliquer dans une certaine mesure, surtout l'histoire actuelle, l'histoire économique. L'histoire de l'art, c'est quand même l'apparition soudaine, sans raison, d'un génie. Pourquoi Mozart? Pourquoi Watteau? C'est inexplicable.
Enfin, autant de génie en même temps, il y a peut-être une raison à cela, Pierre Robert.
Oui, bien sûr, le mécénat.
C'est le mécénat. Hein.
Oui, l'encouragement aux arts.
Jules II, c'est les commandes de Jules II, de Laurent le Magnifique. C'est lui d'ailleurs qui a découvert à Florence, alors qu'il était encore tout jeune, qui a découvert Michel-Ange.
Oui, il y a toutes sortes de légendes là-dessus. Il y a le fameux antique qu'il fait et que tout le monde admire en croyant que c'est un antique, alors que c'est une œuvre de Michel-Ange. Et quand on dit, quand il dit c'est moi qui ai fait ça, tout le monde. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que ça n'est pas vrai? Très vite, Vasari est venu là pour raconter une version un peu romanesque des choses. Bien sûr, il y a le mécénat qui a joué un rôle essentiel. Il y a aussi cette affirmation que l'artiste n'est pas un artisan. Jusqu'à une certaine date assez récente, en fait, l'artiste, c'était la même chose qu'un artisan. Enfin, c'était... Et subitement, l'artiste s'affirme comme une grande vedette. Et une vedette qui est aussi célèbre que Brigitte Bardot aujourd'hui ou hier. C'est quelqu'un qu'on salue dans la rue, qui est vénéré, qui gagne beaucoup d'argent, qui peut se permettre de dire non au pape, qui peut fuir le pape, qui peut refuser les commandes, quelqu'un de libre. L'artiste est quelqu'un de libre. Et ça, c'est tout à fait nouveau, d'une liberté extraordinaire. On sait par exemple très bien que Michel-Ange était plutôt républicain, qui n'aimait pas beaucoup les Médicis. Tout ça, on le sait, ça n'a pas empêché les Médicis de lui passer d'énormes commandes. Il y a cette espèce de liberté qui est formidable. Et à tous les points de vue, d'ailleurs, dans leur vie personnelle également.
Cela dit, c'est la République de Florence, après le départ des Médicis, qui commande à Michel-Ange son premier chef-d'œuvre, qui a été cette statue, ce David, qui a été... D'ailleurs, sculpté dans des conditions très difficiles. Je crois qu'il avait trouvé un immense...
Il y avait un bloc de marbre qui était arrivé depuis Carrare à Florence et que personne n'avait osé attaquer. Et alors, Michel-Ange, on lui dit, écoutez, essayez, il essaye. Et il produit ce David qui, évidemment, fait sensation. Parce que c'est une œuvre gigantesque. Et d'avoir su tirer de ce marbre ce David, symbole en un certain sens de Florence, pendant longtemps, et a fait frémir tout ce monde qui se passionnait pour les idées, mais aussi pour les liens qu'il pouvait y avoir entre les idées et l'art. Parce qu'en fait, tout ce monde qui grouille à ce moment-là s'intéresse bien sûr à l'art et se pose la question de savoir comment l'art peut traiter de sujets qui ne sont pas simplement ce que l'on voit, mais enfin la beauté, l'amour, la mort, tous ces grands thèmes. Et les humanistes de l'époque se sont posé ces questions et les artistes ont voulu relever les défis et répondre à leur façon.
Alors le fait de sculpter un David, ce n'est pas un hasard. Il y avait déjà deux sculpteurs qui l'avaient fait avant Michel-Ange, c'était Verrocchio et Donatello. Oui. Je crois que David devait incarner aux yeux des commanditaires de Michel-Ange, c'était la République de Venise.
La République de Florence.
De Florence, pardon.
Oui, oui. La République de Florence qui justement voulait s'affranchir du pouvoir des Médicis, mais aussi s'affranchir de l'autorité du pape. Parce qu'en fait, l'Italie, vous l'avez dit tout à l'heure, est très divisée. Chaque ville, chaque région a son autonomie, chaque région a ses conflits internes et chaque région a ce problème de ses relations avec d'une part le pape, et puis aussi il y a les méchants français qui viennent régulièrement envahir. Il y aura le sac de Rome en 1527. La période est très troublée au point de vue politique. On croit que les artistes créent dans la sérénité. On pense qu'à cette époque-là, ils avaient que ça à faire. L'époque est extraordinairement trouble. On a même du mal à comprendre entre tous ces voyages qu'ils font, que Michel-Ange fait entre Bologne, entre Florence, entre Rome, comment ils pouvaient se concentrer sur leurs œuvres. C'est assez extraordinaire. Mais...
Alors, ce David va faire sa renommée, Pierre Rosenberg, au point que justement, le pape Jules II le convoque et lui demande de construire pour lui, pour le pape, le jour où il sera mort, de construire son tombeau.
Encore au travail? Le pape est déjà entré dans la ville.
J'ai affaire.
Sûrement rien d'aussi important que de rendre honneur à votre pontife.
Ce tombeau le rendra fameux, à jamais.
Alors j'ai peur qu'il n'atteigne pas la célébrité en ce siècle. Au train où vous travaillez.
Connaissez-vous un sculpteur qui sache tailler le marbre plus vite que moi?
Combien de sculptures sont projetées pour ce tombeau?
40, comme vous le savez.
Et cela vous a pris combien de temps pour sculpter le David à Florence?
4 ans.
4 fois 40 font...
Je sais, Bramante, je sais, 160 ans. Voilà pourquoi je ne puis prendre du bon temps.
Alors ce tombeau, hein, ça a été un véritable calvaire pour Michel-Ange. Il a mis 40 ans sans pouvoir l'achever.
Absolument, ça a été l'œuvre de sa vie. Mais le côté inachevé chez Michel-Ange est essentiel. Je crois que d'achever une œuvre, surtout une sculpture, pour lui, c'était un peu contraire à sa conception de la sculpture. L'œuvre, sa vie, c'était qu'elle soit inachevée. Et donc, bien sûr, il a tout fait pour que ce tombeau soit achevé. Et il a fait des œuvres achevées, ne serait-ce que la Pietà ensuite à Rome, quelques années plus tard. Mais en fait, je crois que ce côté inachevé, ça devait quand même, comme d'ailleurs chez Léonard, jouer un rôle dans sa conception des arts.
Oui, mais celle-là, hein, c'était 40 ans dessus quand même. Oui, oui. Je crois que le Louvre, vous avez vécu à côté des esclaves, c'est-à-dire un morceau du tombeau de Jules II qui n'a jamais vu le jour.
Une des vedettes du Louvre, il faut bien le reconnaître. Les gens viennent au Louvre en partie pour les esclaves. Ça fait partie des 4 ou 5 incontournables du musée.
Alors on disait, Pierre Rosenberg, qu'il était polyvalent, dont sculpteur. Ensuite, nous le verrons avec la Sixtine, peintre. Mais aussi, c'est moins connu, il était poète.
Un très beau poète, difficile à traduire, je crois, mais très beau poète, très fier de ses poèmes.
Eh ben Stéphanie, justement, on a retrouvé quelques-uns. Stéphanie, la revue de texte.
Oui, Michel-Ange était poète, et pas seulement dilettante, hein. Un de ses amis raconte, vers l'âge de 29 ans, Michel-Ange resta quelque temps sans faire aucune chose en sculpture et en peinture. Il se consacrait à la lecture des poètes et à composer des sonnets pour son plaisir. Alors pour son plaisir et aussi, sans doute, pour exprimer plus intimement que dans le marbre, peut-être, sa souffrance intérieure et sa solitude. « Je reste seul à me consumer quand le soleil dérobe au monde sa lumière. D'autres, c'est par plaisir qu'ils s'étendent à terre. Moi, c'est dans mon malheur pour gémir et pleurer. » Dans son sonnet à Jules II, Michel-Ange peut aussi exprimer toute sa rage contre l'absolutisme du pape qu'il qualifie de « rouvre desséché ». De longue date, ton fidèle serviteur, je t'appartiens comme au soleil ses rayons mêmes. Malgré tout, mon temps ne t'est rien. Tu n'en as cure et plus je m'évertue, moins j'ai l'heure de te plaire. Alors, il dénonce aussi l'esprit mercantile qui s'est emparé de Rome. Ici, on vous fait d'un calice un casque, un glaive, et le sang du Christ se trafique à pleine main. De la croix, des épines, on forge des lances, tant et si bien que le Christ même perd patience. En plus comique, Michel-Ange écrit aussi son épuisement à peindre pendant des heures la voûte de la chapelle Sixtine. « À travailler tordu, j'ai attrapé un goitre, comme l'eau en procure aux chats de Lombardie, à moins que ce soit de quelque autre pays. Et j'ai le ventre à force collé au menton, ma barbe pointe vers le ciel, je sens ma nuque sur mon dos. J'ai une poitrine de harpie et la peinture qui dégouline sans cesse sur mon visage en fait un riche pavement. Mes lombes sont allées se fourrer dans ma panse, faisant par contrepoids de mon cul une croupe chevaline et je déambule à l'aveuglette. » Mais la plupart des sonnets de Michel-Ange sont dédiés à l'amour de sa vie. Enfin, on pense que c'est l'amour de sa vie, le beau romain Tommaso Cavalieri. « Tu sais bien, mon Seigneur, que tu sais que je m'en suis venu jouir de toi de plus près. Et tu sais que je sais que tu sais qui je suis. À nous fêter alors, pourquoi tarder ainsi ?» Alors, Michel-Ange, d'ailleurs, ne cache pas sa préférence pour les hommes. L'amour auquel je songe tend vers les hauteurs, mais tout autre est celui des femmes. Un cœur sage et viril ne doit pas se consumer pour elles. L'un vous attire au ciel et l'autre vers la terre. L'un dans l'âme est logé, l'autre habite les sens et décoche sa flèche à vie les bas objets.
C'est étonnant, hein. On sait peu de choses de la vie privée de Michel-Ange, parce qu'on dit que c'était un bourreau, c'est Raphaël qui disait c'est un bourreau de travail. Hein,
C'est un bourreau de travail.
Mais il y en avait une quand même de vie privée.
Il y avait une vie privée, parce que vous avez parlé du jeune homme, mais il y avait aussi la Colonna qui a joué un grand rôle et qui a été sans doute une grande passion intellectuelle de Michel-Ange. Est-ce qu'il était homosexuel, est-ce qu'il était bisexuel, comme sans doute Raphaël? À l'époque, tout ça n'avait pas la connotation actuelle. Mais je voudrais revenir sur plusieurs choses de ce que vous nous avez lu. Premièrement, il ne faut pas oublier qu'il était très pieux. C'était un homme profondément pieux, beaucoup plus que les artistes que vous avez cités tout à l'heure. Et ensuite, il était désintéressé. C'est pas un homme d'argent du tout, à l'inverse d'autres artistes de l'époque. Et puis, alors, vous avez parlé naturellement de la voûte qu'il peint, que pour longtemps, on a déclaré que Michel-Ange avait peint couché sur le dos. Or, il y a un petit dessin de Michel-Ange qui prouve qu'il avait peint debout. Il était debout. Il peignait comme ça au plafond. Et le poème, quand on le lit bien, malgré la barbe, etc., prouve bien qu'il était debout pour peindre et non pas couché. D'ailleurs, vous savez, il y a des histoires célèbres à ce sujet qui prouvent à quel point tout ça a été chez lui quand même très conscient et très étudié. Il y a l'histoire célèbre des échafaudages. Bramante.
On y reviendra. D'accord. Mais pour ce qui concerne justement la vie privée, là, on ne sait pas très bien s'il était.
À mon avis, il travaillait tellement. Il travaillait tellement. Il avait tellement d'intérêt que c'était pas une chose importante pour lui. On peut pas dire la même chose pour d'autres artistes que vous avez cités tout à l'heure.
En tout cas, c'est à un homme, Giovanni, qui a dédié cette pavane, écrite par Michel-Ange.
Ho già fatto un gozzo in questo stento. Come fa l'acqua gatti in Lombardia, ovver d'altro paese che si sia, che a forza al ventre appicca sotto al mento, la barba al cielo, la memoria sento, in sullo scrigno e il petto fa terapia, e il pennello sopra il viso. Via, me il fa gocciando un ricco pavimento.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, Michel-Ange avec Pierre Rosenberg.
Et c'était la pavane de l'ange, un sonnet de Michel-Ange sur une musique moderne de Philippe Edel, une pavane dans laquelle Michel-Ange décrit la souffrance justement qu'il a eue pour peindre la chapelle Sixtine. Alors, avant de parler de cette voûte, c'était d'abord un chantier gigantesque, Pierre Rosenberg.
Gigantesque.
C'était le chantier du Vatican que voulait Jules II.
Que voulait Jules II, qui se voulait par là le pape le plus puissant. Enfin, il se voulait la puissance non seulement spirituelle, mais aussi terrestre, matérielle, une vraie puissance, et les œuvres d'art, leur beauté, tout ça faisait partie, il voulait en imposer, c'est déjà Louis XIV si l'on veut dire.
Il se refusait rien, il avait mobilisé tout ce que l'Italie comptait de plus grands artistes, il y avait Raphaël qui
tout le monde était chambre, là, il voulait faire venir absolument tout le monde, mais en fait il se refusait rien, mais il avait des limites d'argent, et sans arrêt on voit que Michel-Ange, pour payer ses ouvriers, pour payer tout ça, réclame de l'argent qu'il n'obtient pas. C'est pas aussi simple que ça, il avait beaucoup d'argent, mais les guerres coûtaient cher, car c'était un pape guerrier, et tout ça, en fait il vivait un peu au-dessus de ses moyens.
Alors, contrairement à la basilique Saint-Pierre, qui est neuve à l'époque de Jules II, que Jules II fait construire par Bramante, cette chapelle Sixtine, elle est vieille et elle est assez moche, en fait.
Elle est assez moche. Elle croulait. C'est pour ça que Sixte IV, l'oncle, donc, avait décidé de la reconstruire et de la faire orner par les murs latéraux par les principaux artistes florentins de l'époque. Mais la voûte était elle-même une voûte assez bêtasse, avec un ciel étoilé, croit-on. Et c'est là que, justement, on s'est dit, non, il fallait la peindre. Et on a demandé à Michel-Ange. Ce qui est intéressant, c'est un petit peu comment il s'y prend. On a très longtemps, on s'est posé la question, bien sûr, c'est de la fresque, ça c'est bien clair, mais comment peignait-il? Alors, on le sait maintenant un peu mieux. Il utilisait toutes sortes de méthodes. Et d'abord, il utilisait ses doigts pour peindre. On a toujours cru qu'il peignait avec ses pinceaux, mais il y a des traces de doigts. Ouais. Très clairement, il peignait. Parce qu'en fait, la vraie difficulté pour peindre une voûte, et c'est en fait ce qui explique le prestige qu'ont eu les plafonds dans l'histoire de la peinture, c'est que quand vous peignez, en général, vous voyez ce que vous faites. C'est ça, c'est la définition même de la peinture. Vous voyez, vous avez sous les yeux. Quand vous peignez une voûte, il faut que vous descendiez en bas pour vous rendre compte de l'effet que ça produit. Et il pouvait pas descendre en bas. Il pouvait de temps en temps, mais il voyait rien puisqu'il y avait les échafaudages. Donc, il faut une capacité extraordinaire d'imagination pour pouvoir peindre quelque chose qu'on ne voit pas. D'où le prestige qu'ont eu jusqu'à Tiepolo les peintres de plafond.
Et puis, un travail énorme. Il faut se rendre compte des dimensions du plafond. Je crois que c'est la plus grande fresque du monde, le plus grand tableau du monde.
500 mètres, 520, 530 mètres carrés de peinture. Oui, mais enfin, ça, bon, très bien. Mais c'est surtout le fait qu'on ne voit pas ce que l'on fait. Vous imaginez? Donc, comment faisait-il justement pour voir un peu plus ce qu'il faisait? Donc, il peignait avec les doigts, je l'ai dit, mais en gros, il utilisait de carton, de grands cartons qu'il avait, et il faisait des petits trous dans les cartons qu'il appliquait sur le plafond, et il soufflait du charbon dans les petits trous, et ça laissait une trace qui lui permettait ensuite de peindre quelque chose qu'il avait déjà quand même conçu intellectuellement. Et ou bien il y avait d'autres techniques, mais celle-là, cette technique du poncif, est une technique qu'on a découvert quand on a restauré le plafond. On a vu des traces de noir encore de ce charbon qui était resté.
Alors il travaillait seul aussi, d'abord c'était épuisant,
moins seul il y a une légende célèbre où il fiche tout le monde à la porte, c'est vrai, mais il avait quand même besoin de gens pour lui préparer les couleurs, pour lui brailler les couleurs et pour lui préparer aussi l'enduit sur lequel il peignait. Parce que ça se faisait par ce qu'on appelait des giornate, des journées. On lui préparait un jour un carré, on le voit très clairement, un carré d'un enduit sur lequel il peignait, soit en utilisant le poncif, soit en gravant au trait à partir du carton. Mais donc, si vous voulez, il avait quand même besoin d'assistants autour de lui. Il avait aussi besoin de gens qui lui apportaient à manger. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Donc, il y a toujours chez Michel-Ange, c'est devenu un héros. Donc, il y a une héroïsation de ce qu'il était. C'était quand même un être humain.
Oui, un héros aussi parce que il a quand même survécu ou il a dû subir l'hostilité de quelques cardinaux effrayés par son travail.
À la vue de Dieu, dans la maison de sa gloire, spectacle obscène, honteux, honteux et obscène, cet artiste tire son inspiration des Grecs qui glorifiaient la nudité. Il a transformé la chapelle de votre sainteté en un temple païen.
Eh bien, Buonarroti, qu'avez-vous à dire?
Rien.
Rien? Alors, devrais-je écouter ces critiques et faire repeindre les murs?
Le livre de la Genèse dit que Noé était nu. Dois-je corriger les saintes écritures et lui passer un pantalon?
Vous profanez les écritures! Le nu n'est pas un sujet convenable en peinture!
Alors Dieu lui-même est un profanateur, c'est lui qui a créé l'homme à sa propre image!
Blasphémateur!
Il a créé l'homme avec fierté et sans honte, et ce sont les prêtres qui ont inventé l'opprobre!
Maintenant, hérétique!
Je peindrai l'homme tel que Dieu l'a fait, dans la gloire de sa nudité! Je dis que je peindrai la vérité, n'en déplaise à tous les bigots et les hypocrites de Rome! Pourquoi avez-vous amené des butors à juger mon œuvre?
Et j'ai fait!
Ça a beaucoup choqué, hein, les pauvres.
Oh, ça a beaucoup choqué. Les nus, bien sûr. D'ailleurs, Michel-Ange a une passion pour les musculatures, c'est incontestable. Il y a les musculatures, l'homme dans toute sa virilité, tout ça, ça a beaucoup compté. Il y a deux choses qui ont été. Dans ce que l'on entend, il y a d'abord l'allusion au grec, capital. En effet, cette renaissance italienne veut être à l'image de ce qu'il y avait de plus beau dans cette civilisation grecque qu'on découvre à l'époque. Et puis l'autre chose, c'est qu'il faut placer tout ça dans le contexte d'un grand conflit avec les protestants. Et incontestablement, il y a là-dedans, dans cette commande et dans tout ce qui se passe à Rome à ce moment-là, un défi à relever devant la montée du protestantisme dans le Nord. Et ça, tout ça, vous avez parlé des grands artistes, vous n'avez pas cité Véronèse. On sait que les conflits sur certains tableaux de Véronèse proviennent de ce qu'on les a interprétés comme des allusions à vision protestante de la religion.
Alors, ce qui a beaucoup plus choqué encore que la voûte de la chapelle Sixtine, c'est ce qu'il a peint 22 ans plus tard, je crois, toujours dans la même chapelle Sixtine, c'est-à-dire le jugement de Dieu, où là, effectivement, Dieu et tous les personnages de ce tableau sont tellement nus, d'ailleurs, qu'on a demandé à un peintre, après lui, de cacher le sexe de ce qu'on voit, d'ailleurs, de la Sixtine, n'est pas entièrement de Michel-Ange. Hélas, il y a ce peintre qu'on appelait Il Braghettone, qu'il avait caché le sexe de tous les...
Mais vous savez, c'est très curieux, cette histoire des nus. Et d'abord, il y a des parties à actuelles encore, où on voit très clairement les ajouts faits par Il Braghettone et Daniel à Voltaire, à moins que ce soit Sébastien Del Piombo, qui est donc pincé ces morceaux de peinture. Mais ça, la chose n'a pas cessé. Je lisais tout récemment que Pie XI, d'après un historien d'art très célèbre, avait l'intention de rajouter encore quelques pantalons sur certains des... C'est vous dire que...
Au XXe siècle, donc.
Au XXe siècle, Pie XI, c'est tout récent.
C'était pas la seule audace aussi. Ce tableau, Le Jugement Dernier, il inspire la peur. On voit un Christ méchant. C'est Romain Rolland qui disait toute cette armée de corps gigantesques en proie à un sentiment unique, la peur. C'est quand même curieux,
c'est la
sur
terreur.
Un thème religieux et sur le jugement dernier, de faire peur.
C'est la terreur. C'est un tableau moral. Il veut faire peur pour que nous rentrions tous dans le droit chemin. Et c'est la terreur. C'est un peintre de l'excès et de la violence. Et c'est indéniable qu'il a voulu convertir. L'emplacement est d'abord très important. C'est quand même la chapelle du pape. C'est là que se tiennent les plus grandes cérémonies de l'Église catholique. Donc, si vous voulez, c'est une véritable leçon. Et pour peindre ce jugement dernier, il a dû détruire Michel-Ange lui-même. D'abord, un grand tableau de Pinturicchio qui était là, et puis surtout ses propres. Il y avait de lui-même des bouts de Michel-Ange qu'il a détruits pour placer son jugement dernier, donc pour avoir tout le mur pour lui, et pour impressionner par ce mur tous ceux qui seraient dans cette chapelle, et à commencer par les principaux représentants du Christ sur Terre.
Michel-Ange est mort très vieux,
1564.
1564, il a 89 ans, il a survécu à tous les contemporains.
Oui, y compris Raphaël, que vous avez cité tout à l'heure.
Et toutes ces œuvres, alors lui, il s'est fait enterrer à Florence, en cachette, hein, parce que je crois qu'à Rome, on voulait garder même son corps, et pas seulement ses œuvres. C'est dit, ses œuvres sont restées pour la plupart en Italie. Au Louvre, on a cité les esclaves,
le reste. Tout, ouais. C'est malheureusement pas de tableau, oui. Presque toute l'œuvre est à Rome, bien sûr, et à Florence. Bien qu'il y ait quelques petits bouts à Bruges, il y a des petits bouts à Bologne, et il y a des très beaux morceaux aussi à Milan, bien sûr. La dernière œuvre de Michel-Ange est à Milan, et puis, naturellement, à Londres, Victorian Albert Museum, il y a quelques très belles sculptures. Non, l'œuvre est restée en Italie, incontestablement. justement, il est mort célèbre. Comme les obsèques de Michel-Ange à Florence en 1564 ont été, tout le monde y était, c'était l'événement. C'était, il est mort dans une gloire immense qui était due non seulement à ses sculptures, mais aussi à quand même à la coupole de Saint-Pierre.
Merci en tout cas, Pierre Rosenberg, de nous avoir parlé et rappelé le personnage de Michel-Ange, aussi bien que sa peinture, que l'on retrouve, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup, dans un livre magnifique, un livre d'art dirigé par Carlo Pirovano et intitulé La peinture italienne, un livre en 2 volumes, réuni dans un coffret publié chez Mingès, et un livre que vous avez préfacé. Et puis à lire également Michel-Ange et la chapelle Sixtine, un beau livre illustré de Marcia Hall, avec des photographies de Takashi Okamura, et édité par la Renaissance du Livre.
Très, très belle photo et très bon texte, une historienne d'art américaine, très bon texte, très facile d'accès, et qui donne cette idée de ce personnage extraordinaire, hors mesure, bouleversant, tragique, qui est Michel-Ange.
Et surtout de cette chapelle Sixtine dont nous avons parlé, mais qui est là, à la radio, évidemment, on ne peut pas voir.
Tant mieux, ça donne envie d'aller la voir, c'est beaucoup mieux.
Vous avez pu entendre des extraits du film de Carol Reed, L'Extase et l'Agonie, avec Charlton Heston dans le rôle de Michel-Ange, disponible, un très bon film, disponible en cassette chez RCV Vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0800 92 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Christophe Goudin, documentation Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.